La concentration. Un bon moyen de ne pas gaspiller votre temps est d'être concentré sur ce que vous faites. Le temps passé devient nécessairement plus efficace, plus pertinent car utile, et vous n'aurez plus besoin de dépenser vos précieuses minutes pour revenir sur ce moment afin de chercher ce que vous aviez raté ou oublié. Il existe de nombreuses méthodes pour se mettre en état de focus et de concentration intense, comme celle que j'utilise pour mettre tout mon esprit en phase en seulement 2 minutes. J'en parle notamment dans mon livre « Votre cerveau est extraordinaire ». Mais quelle que soit votre manière de procéder, vous pouvez optimiser votre environnement pour vous maintenir dans cet état de focus. Comment écouter attentivement? Pour écouter attentivement, nous allons devoir faire quelque chose de complètement opposé. Écrire. Cela peut vous paraître étrange, contre-intuitif, mais pour pouvoir être vraiment concentré sur votre écoute, il faut occuper la partie motrice de votre cerveau, qui s'ennuie. D'ailleurs, vous l'avez déjà fait naturellement sans vous en rendre compte. Griffonner sur une feuille ou dessiner dans une marge, tout le monde y voit un signe évident de manque de respect envers la personne qui vous parle. Mais amusons-nous à poser le problème à l'envers. Pourquoi avons-nous ce réflexe, ou à minima cette envie, lorsque nous sommes au téléphone, en cours, en réunion, en conférence, en formation, etc. Est-ce un hasard que la plupart des êtres humains aient cette mauvaise habitude? Évidemment que non. Le cortex auditif est le principal sollicité lors de l'écoute et de l'apprentissage oral. Les aires de Broca et de Wernicke tournent alors à plein régime pour vous aider à synthétiser un maximum d'informations. Vous êtes en train de vous concentrer sur votre écoute et sur le sens de ce que vous entendez. Malheureusement, les aires visuelles du lobe temporal ainsi que les régions motrices ne sont plus sollicitées. Votre cerveau s'ennuie terriblement d'être si peu exploité sur ce qu'il occupe le plus habituellement. Il va rentrer dans ce qui s'appelle en neurosciences le mode par défaut, le MPD pour les intimes. Pour faire très simple, votre cerveau n'est plus pleinement stimulé par le monde qui l'entoure. Il est au chômage technique car il ne sait plus quoi faire de concret. Il reste dans un état de repos forcé tout en étant encore en activité. Pour compenser cette mise au placard, il va se rendre un peu utile en générant des pensées parasites, en titillant votre concentration, en s'occupant de vous envoyer des petites problématiques, des fantasmes, des craintes, des choses que vous devez anticiper. Vous allez commencer à rêvasser, à être distrait. Adieu à votre concentration. En griffonnant sur une feuille, vous stoppez net ce processus. Vous donnez ainsi une occupation concrète à ce démon qui a soif d'activité. Vous obtenez comme bénéfice une pleine capacité d'écoute qui ne sera plus parasitée. Les zones responsables de l'écoute et de la compréhension ne sont pas les mêmes que celles avec lesquelles vous griffonnez. Vous êtes tranquille et en pleine possession de votre concentration auditive. Par extension, c'est le même processus qui explique pourquoi nous avons tendance à marcher tout en étant au téléphone. Aviez-vous remarqué que plus la conversation est importante ou plus vous avez besoin de réfléchir activement, plus vous marchez? Regardez un comédien qui répète et vous verrez le marathon qu'il parcourt avant de monter sur scène. Pour être capable d'avoir une écoute attentive, il faut occuper le reste de son cerveau. Occupez votre corps basiquement en griffonnant ou en marchant. Comment écrire en pleine concentration? Vous avez donc compris qu'une des solutions pour avoir une écoute attentive était d'écrire. En toute logique, l'inverse est vrai. Lorsque vous écrivez, vous utilisez toutes les ressources cognitives de votre cerveau, qu'elles soient visuelles, motrices, créatives ou simplement de raisonnement. Mais deux d'entre elles ne sont pas du tout exploitées, celle du cortex auditif. Aucun fil conducteur pour nourrir ce dernier. Le plus dangereux des pièges va donc être de vous laisser disperser par les stimuli auditifs autour de vous, qu'ils vous soient destinés ou non. Une seule solution, mettre un casque et rentrer dans une bulle musicale. Cela vous coupera du monde extérieur, riche en parasites sonores pouvant attirer votre attention, tout en envoyant un signal clair aux personnes ayant l'envie saugrenue de venir vous parler « Je ne vous écoute pas ». Certaines personnes m'ont confié ne pas pouvoir travailler avec du bruit autour d'elles. Cette croyance est inexacte. puisque nous avons a priori tous le même cerveau. L'explication se trouve dans ce que l'on doit ou peut écouter. Au fil des années, j'ai constaté l'efficacité de la bulle sonore, ce qui explique qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à travailler sans un de ces fonds sonores, radio, télévision ou musique. Mais comme un sportif de la concentration, cette flexibilité m'est venue à force de répétition et d'entraînement. Dans un premier temps, essayez simplement plusieurs musiques, plusieurs styles et cherchez le combo qui vous aidera à travailler pour trouver la musique qui vous correspond le plus. Voici les points à tester pour trouver la musique qui vous aidera à être concentré lorsque vous écrivez. Le rythme. Votre concentration fonctionne-t-elle mieux avec un rythme lent ou rapide? Les paroles. Êtes-vous plus à l'aise avec ou sans? Le sens des paroles. Avez-vous besoin de comprendre les textes ou est-ce plus efficace avec une langue qui vous est étrangère? Les morceaux. Vous sentez-vous plus dans votre bulle si vous passez des titres que vous connaissez bien? Le genre. Vous concentrez-vous mieux avec un genre musical que vous aimez ou un que vous écoutez moins fréquemment? Une fois que vous savez quelle musique vous aide à écrire, composez des playlists assez longues que vous pourrez écouter pour vous isoler du reste du monde. Votre concentration ne doit pas être interrompue par le choix du prochain morceau. Je vous recommande de les écouter en mode aléatoire pour ne pas jauger inconsciemment le temps qui passe en fonction du morceau que vous écoutez. Je suis seulement à ce morceau, ça veut donc dire que ça ne fait que 20 minutes que je suis sur cette tâche. Une bonne méthode actuelle est d'utiliser les services de streaming tels que Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc. Vous y trouverez des playlists déjà faites en fonction de votre état d'esprit. Motivation, concentration, révision, créativité, etc. Tout y est déjà, le côté pratique est indéniable. Pendant l'écriture de ce livre, j'écoutais justement une playlist composée exclusivement des titres de Ellie J et des titres de Big Flo et Oli. J'avais d'ailleurs écrit mon premier livre en écoutant en boucle les chansons des Ellie J et mon deuxième livre en écoutant en boucle Big Flo et Oli. Comme je vous le disais, je suis bien monomaniaque, au plus grand dam de mon entourage. Pour optimiser votre concentration quand vous écrivez, vous devez être maître de ce que vos oreilles perçoivent tout en occupant les aires auditives de votre cerveau. Offrir son énergie au bon moment. Malgré l'application de tous ces principes, je me suis retrouvé un jour débordé, en 2013, sans vraiment comprendre pourquoi. Mes journées étaient harassantes et je ne comprenais toujours pas dans quoi passer mes heures, malgré un lever tôt et un coucher tard. Je partageais alors la vie d'une danseuse de talent et j'avais observé quelque chose. Elle ne commençait jamais à travailler une chorégraphie si la date n'était pas assurée, le casting confirmé dans son agenda ou le projet signé. Quitte à libérer du temps plus tard pour consacrer les heures nécessaires à cette nouvelle priorité. Ce fut le point de départ d'un nouveau concept de vie pour moi. J'ai traqué l'ensemble de mes journées pendant 7 jours et j'ai pu en tirer 3 révélations. Premièrement, ne mettez pas d'énergie trop tôt. Attention, lorsque je parle d'énergie dans un projet, il ne faut pas confondre votre propre projet et les projets que l'on vous propose, qu'ils soient personnels ou professionnels. Un nouveau projet est toujours excitant et plein de promesses pour le futur car, comme il n'existe pas, tous les fantasmes sont permis. Dans la réalité, beaucoup n'aboutissent pas. Je vous recommande de ne mettre une véritable énergie que lorsque l'on vous a prouvé que le projet avait une vraie chance d'aboutir, ou mieux, quand vous avez la garantie qu'il existera dans le temps. Voici un exemple. Depuis 2016, nous sommes en 2019 au moment où je vous parle, j'ai un projet de programme télévisé avec 2 producteurs. Je ne suis pas à l'origine de cette idée et ça n'a jamais fait partie de mes désirs ardents. Mais l'idée était intéressante et je leur ai expliqué que je ne mettrais que peu d'énergie pour le moment. Mon accord pour avancer dessus est un accord de principe pour un projet intéressant. Ils savaient que je ne solliciterais pas mon temps de créativité ou de rendez-vous en avançant dans le noir complet. J'ai donc assuré un service minimum dans ce projet. Et, 3 ans plus tard, nous en sommes au point mort. Je le vis sans déception, puisque je ne me suis pas emballé émotionnellement et que je n'ai pas rangé ce projet dans mes priorités. Les heures que j'y ai consacrées sont raisonnables et formatrices, puisque je ne connais pas très bien ce milieu et que 1 vaut mieux que 0. et je n'ai pas vraiment fait de sacrifice temporel. Un exemple fictif de temps personnel. Des amis vous disent « Il faut qu'on aille en vacances ensemble à tel endroit l'été prochain. » Soit. C'est une bonne idée, mais ça n'est pas la vôtre. Attendez qu'ils en reparlent ou qu'ils mettent de l'énergie dans la recherche et l'organisation de ces vacances, ou encore qu'ils établissent un budget. Signe qu'ils l'envisagent réellement. Mais ne devenez pas le plus motivé du groupe tant que ceux qui proposent, ceux qui ont déclenché ce projet, n'ont pas prouvé leur propre implication. Ne vous sentez jamais obligé de mettre une priorité temporelle sur des projets que vous n'avez pas choisis. Deuxièmement, avez-vous décidé d'être la locomotive? Connaissez-vous le super-pouvoir de Steve Jobs, le fondateur iconique d'Apple? Dans ses biographies, toutes les personnes qui l'ont connu s'accordent à dire qu'il pouvait mettre un filtre de réalité par sa simple présence. Lorsqu'il avait une idée ou qu'il exposait un point de vue, aussi risqué ou critiquable fût-il, vous étiez persuadé qu'il avait raison, que c'était une vérité et vous deveniez surmotivé. Mais si vous restiez loin de Steve Jobs un peu trop longtemps, votre raisonnement engourdi reprenait peu à peu ses droits et vous retrouviez petit à petit votre esprit critique. Vous y voyez de nouveau plus clair, vous rendant compte dans quoi vous vous étiez embarqué. Mais cette particularité de Steve Jobs n'était pas problématique pour son entourage professionnel car il était un moteur, une locomotive, et il faisait avancer l'ensemble du train dans la direction qu'il avait prise. Malheureusement, il existe également des personnes convaincues et convaincantes qui ne sont que de simples passagers, là où Steve Jobs était une locomotive. Elles vous montrent la direction, vous motivent et attendent inconsciemment que vous soyez la locomotive du train dans laquelle elles pourront ensuite voyager. Je ne dis pas ici que ces personnes ne fournissent pas d'efforts, mais elles ne fournissent pas ce que la locomotive doit endosser et qui demande beaucoup d'énergie physique et de charge mentale. Depuis des années, je me suis mis à analyser rapidement les personnes qui me proposaient de « bonnes idées » ou des « bons plans que l'on devrait faire », que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Ces personnes ont-elles la compétence pour mener l'idée à terme ou suis-je le seul à les avoir? Ont-elles la capacité de dégager le temps qu'il faudra ou devrais-je tout prendre sur le mien? Sont-elles des passagers, qui n'apportent rien au projet à part l'idée de départ, des wagons, qui apportent des éléments pour mener l'idée mais ne dépensent pas l'énergie et la motivation pour faire en sorte que l'idée avance toujours, ou enfin des locomotives. Elles travaillent, mais en plus donnent leur énergie pour toujours faire avancer l'idée. Je suis donc par choix la locomotive de tous mes projets, de toutes mes idées. Mais je refuse d'être celle des autres, même si l'idée est géniale. Aussi, tant qu'une personne me propose quelque chose sans se positionner comme locomotive, je reste simple voyageur, qui n'a même pas fourni l'idée. J'attends que la locomotive se mette en mouvement et à ce moment, je deviens un wagon sans problème. Méfiez-vous de la casquette que l'on veut vous mettre, même si l'idée est séduisante. Quand on vous dit « Pourquoi ne te lancerais-tu pas dans ceci ou cela ? Je vois exactement ce qu'il faut faire », répondez « Go, fais-le et je te suivrai ».